Je ne sais jamais comment faire la transition après un tel moment de louange. Alors Marie-Jo s'en est chargée. Bonjour tout le monde. On vient de passer un bon moment de louange. Et puis je vais de nouveau être un peu le rabat-joie. Des fois, ça me pose problème. Parce qu'il y a des situations où parfois il vaut mieux renoncer. Quitte même à renoncer à ses droits. Renoncer au compromis, parfois il y a beaucoup de choses auxquelles il faut renoncer, on ne se rend pas toujours compte. C'est un petit peu comme si vous voulez aller faire une course en haute montagne. On a Raymond qui est parmi nous, mais il y en a d'autres qui aiment la montagne. Il y en a certainement d'autres qui ont déjà fait des courses de haute montagne. Moi, je parle d'une haute montagne jusqu'à 3 à 4 000 mètres avec un glacier où il faut s'encorder, où il y a des crevasses, où il faut connaître les lieux, il faut savoir lire une carte de géo, il faut savoir déchiffrer un altimètre, il faut comprendre la météo. Et dans ces cas-là, on prend un guide. Quand on prend un guide, on rémunère un guide, on paye un guide. Et l'objectif, ça semble être le sommet, arriver au sommet. Mais en fait, l'objectif réel, c'est d'arriver sain et sauf au sommet, et même de redescendre et de retourner dans la vallée sain et sauf, c'est d'arriver au bout de la course sain et sauf. Et parfois, la situation change en cours de route. Peut-être qu'on a déjà fait la montée, on a déjà passé une nuit à la cabane, et là on est dans l'ascension qu'on attendait depuis tellement longtemps, et voilà que la météo commence à changer. Il se passe quelque chose et le guide dit « Ah, c'est trop dangereux, on redescend. Il faut renoncer. » C'est pas forcément facile. Ça a un coût. Ça a un coût en frustration. C'était le seul week-end de congé. Et j'ai payé le guide et je suis pas arrivée au sommet. J'ai pas atteint mon objectif. C'est dur ces situations. Mais en fait, oui, j'ai atteint mon objectif. C'est vrai, j'ai payé le guide, je ne l'ai pas payé pour rien. Je suis arrivée saine et sauve à la maison. Parfois, il faut renoncer pour arriver sain et sauf. Jésus a renoncé à ses droits. Il a renoncé à tellement de choses. Il a renoncé à sa gloire. Mais quand il a été arrêté, il s'est laissé faire. Il aurait pu empêcher de se faire arrêter. Il aurait pu dénoncer son procès illégitime, qui n'était même pas un procès. Il aurait pu descendre de la croix. Il avait la capacité de faire tout ça. Mais il a renoncé. Il n'a pas considéré sa propre vie pour lui-même. Mais il a considéré les intérêts de son Père. Et par là, il a considéré nos intérêts. Parce qu'à cause de son renoncement, il nous a sauvés. Il nous a mis au bénéfice de sa grâce. Eh bien, il y a quelque chose de similaire dans notre marche avec le Seigneur. Il arrive que nous devions renoncer à certains droits, que nous devions nous séparer de certaines choses. Et parfois, il s'agit de compromis. Des compromis qui nous freinent dans notre marche et immanquablement, ils finissent par créer des conflits d'intérêts dans notre propre vie. Alors, on va aller voir comment Abraham a géré la situation où il a dû renoncer, il a dû se séparer. Souvenez-vous, Abraham, il a dû renoncer. Abraham, il est parti de Ur en Chaldée, vous vous souvenez? On en a parlé quelques fois. Il a dû quitter son pays. Il avait reçu l'ordre de Dieu, quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père. Il a quitté son pays, Ur, tout au sud de la Mésopotamie. Et au bout d'environ 800 kilomètres, il est arrivé, à raison de 30 kilomètres par jour environ, il est arrivé à Charan. Mais à Charan, il a dû se séparer de son père, de sa patrie. Parce qu'en fait, quand il est parti de Ur, ici tout au sud, il est arrivé à Charan. Il est arrivé à Charan, mais avec sa famille. Il n'a pas tout quitté. Il était comme dans un compromis. Et il a stagné à Charan. On ne sait pas pendant combien de temps, mais il s'est installé. Et il a fallu une séparation, celle d'avec son père, pour qu'ensuite il puisse aller à Canaan. Quand il est arrivé à Canaan, il s'est installé, mais il s'est installé d'abord à Sichem, ensuite il a installé ses tentes entre Bethel et Aï, et à un moment donné, il y a eu une famine. Et puis il est descendu avec son clan en Égypte, et depuis là, donc il est arrivé à peu près ici, au milieu de la Palestine, donc de la terre d'Israël, il est allé en Égypte, là où c'était fertile et où il n'y avait pas d'impact de la famine. Mais vous vous souvenez qu'en Égypte, il est entré dans le compromis. Il a triché, il a fait passer sa femme pour sa sœur. Et son but, son objectif, c'était d'être bien traité par Pharaon. Et il a reçu de l'or, de l'argent, du bétail, etc. Il est devenu très riche. Mais avec un compromis, avec un mensonge. Et ça lui a fait des problèmes. Et il s'est fait expulser de l'Égypte. Il a dû revenir en terre de Canaan. Et il arrive de nouveau en Canaan, au chapitre 13 de la Genèse, à partir du verset 1. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme, et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement, entre Bethel et Aï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Voilà la carte d'Israël. Il remonte, il revient entre Aï et Bethel. Il est environ, on va dire, grosso modo, au milieu du pays. Abraham est donc installé entre Bethel et Aï. Il est revenu au Seigneur, il est revenu là où il avait dressé un autel. Mais il y a toujours un compromis, il y a toujours un problème. Et le compromis là, c'est Lot, c'est son neveu. Abraham devait quitter sa famille. Il avait pris Lot sous son aile, parce que Lot n'avait plus ses parents. Mais Lot, il a grandi. Et Abraham devait quitter Lot. Et il ne l'a pas fait. Et il est dans le compromis. Et ça lui pose des gros problèmes. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurent ensemble, car leur bien était si considérable qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phéréziens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, « Qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. » Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain, qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel y détruit Sodome et Gomorre, c'était jusqu'à Tsoar comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs devant l'Éternel. Imaginez un peu. Abraham, il est riche. Il était déjà riche en allant en Égypte. Il s'est fait bien traiter par Pharaon. Il est encore plus riche quand il revient en Canaan. Mais Lot aussi, il a des troupeaux. Et à l'époque, quand on avait des troupeaux, on pouvait vendre ce bétail. Et on pouvait s'enrichir chaque jour. Vendre des animaux, c'était pour des sacrifices, c'était pour la viande, c'était pour le lait, c'était pour la laine, c'était pour le cuir. Il y avait de quoi faire un bon commerce. Et Lot et Abraham s'enrichissent. Mais Lot, il représente un compromis pour Abraham, parce que Abraham n'est pas dans la pleine obéissance à l'Éternel. Et ça commence à faire une sorte de conflit d'intérêts. Il commence à y avoir querelle entre les bergers d'Abraham et les bergers de Lot. ça ne peut plus continuer. La contrée n'est plus suffisante, il n'y a plus assez à manger pour tous ces troupeaux. Ça fait vraiment un problème. Eh bien, c'est un petit peu la même chose dans nos vies. Un petit compromis, l'autre était petit au début, un petit compromis, ça peut éventuellement passer inaperçu. Mais en grandissant, et plus notre marche avec le Seigneur progresse, plus ce compromis commence à prendre de l'importance et créer en nous-mêmes des conflits d'intérêts. Les choses de Dieu contre les choses du diable. Deux territoires qui s'opposent, le monde de la lumière, le monde des ténèbres. Au verset 7, il est noté que les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. D'une part, il y a un conflit interne, mais l'environnement externe n'est pas très favorable. Les Cananéens et les Phérésiens, c'était des gens qui avaient des pratiques idolâtres, qui faisaient aussi des sacrifices, peut-être aussi des sacrifices humains. C'était pas un bon environnement. Et là, Abraham, s'il veut entrer dans sa promesse, il peut pas se permettre d'être dans le compromis. Alors, Abraham comprend qu'il doit se séparer. Encore une nouvelle séparation, encore de l'émondage. Il faut se séparer de Lot. Comment vous auriez fait à sa place? Abraham, c'est le patriarche, c'est l'aîné, c'est celui qui a pris soin de Lot, c'est celui qui a reçu la promesse du pays promis. Comment est-ce que vous auriez fait? C'est ma promesse, c'est pour moi, c'est mon appel, c'est ma place. Il aurait pu dire à Lot, écoute, maintenant t'es grand, maintenant t'as ta femme, t'as tes filles, t'as tes troupeaux, tu peux être autonome, va-t'en, retourne en Égypte, là il y a à manger. C'est pas toi qui as fait des problèmes, donc voilà. Retourne en Mésopotamie, va ailleurs, quitte le territoire, c'est le mien. Comment vous auriez fait à sa place ? Il semblerait qu'Abraham, il a été brisé en Égypte. On dirait qu'il n'est pas le même quand il est remonté, parce que là, il n'attend plus d'être bien traité. Il n'a plus d'attente. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi, si tu vas à gauche, j'irai à droite, si tu vas à droite, j'irai à gauche. Renoncement. Abraham renonce à ses droits. Il renonce au compromis puisqu'il décide la séparation d'avec Lot, mais il renonce à ses droits. Tout le pays lui a été promis, il en cède la moitié à Lot. Et en plus de ça, il le laisse choisir. Imaginez un peu. Abraham y fait preuve d'une confiance tranquille. Une confiance tranquille dans les promesses de Dieu qu'elles vont se réaliser. Quoi qu'il arrive, parce que Dieu est au-dessus de Lot. Dieu est au-dessus des circonstances. Et il fait preuve de générosité. En renonçant à ses droits, il va laisser Dieu lui faire justice. En son temps, à sa manière. Et si on lit dans plusieurs versets du Nouveau Testament, par exemple, Romains 4, verset 3, il est dit et répété, Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Eh bien, dans cet événement-là, Abraham a aussi déjà sa foi en action. Je sais que Dieu m'a donné ce territoire, mais c'est ok. Moi, je ne veux pas de conflit. Moi, je suis un homme de paix. Je vais mettre l'amour en avant. Ça, c'est les principes du royaume de Dieu. C'est l'éthique du royaume de Dieu. Et Dieu pourvoira. Lâchez prise. Alors c'est vrai qu'il y a des compromis dont on doit se séparer, mais de quelle manière? De quelle manière est-ce qu'on le fait? Ça aussi, ça nous interroge. Parce que parfois, quand quelqu'un veut s'attaquer à nos droits, eh bien on a plutôt tendance à revendiquer. C'est à moi. Je suis pas d'accord, c'est pas juste. J'étais là en premier, je suis plus âgé, je suis plus jeune. Même quand on est chrétien, hein. Même quand on est chrétien, même dans l'Église. Parfois, on revendique quelque chose. Dieu nous a appelés pour un ministère, pour quelque chose, et puis on aimerait y aller plus vite. on aimerait entrer dans notre appel tout de suite, puis on essaye de forcer les choses. Ça, c'est une sorte de compromis. On essaye de prendre la place de quelqu'un d'autre. C'est une sorte de compromis. Mais il faut savoir renoncer à ses droits. Et tout à coup, quand c'est là, quand c'est le moment, Dieu ouvre la porte. Voilà le cœur d'Abraham. Et ça, ça doit nous enseigner quelque chose. Comment est-ce que je fais quand on s'attaque à mes droits? Est-ce que je suis capable de renoncer? Est-ce que j'ai cette confiance tranquille que Dieu pourvoira? Eh bien, si c'est comme ça pour Abraham, il en va tout autrement de Lot. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée avant que l'Éternel y détruise Sodome et Gomorre. C'était jusqu'à Tsoar comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. La terre de Canaan, tout le territoire qu'Abraham a reçu en héritage pour lui et sa descendance. C'est un territoire qui est encore habité, alors il n'est pas encore en pleine possession, mais il est déjà en train de prendre possession. Il est déjà en train de marquer son territoire. Partout où il va, il dresse des autels à l'Éternel. Et en ce moment, il est remonté depuis l'Égypte et il est environ au milieu, sur un massif montagneux par ici, avec Lot. Et sur ces montagnes, il regarde tout le pays ensemble. Et Abraham lui dit, si tu vas à droite, j'irai à gauche, si tu vas à gauche, j'irai à droite. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je vous ai marqué nord-sud, est-ouest. Dans le Proche-Orient ancien, à l'époque d'Abraham, la manière de s'orienter géographiquement, c'était toujours en référence à l'Orient, c'est-à-dire à l'est. Alors, quand Abraham dit, si tu vas à gauche, j'irai à droite, il veut dire si tu vas à gauche de l'est. C'est-à-dire au nord. Vous comprenez? Si tu vas à droite, eh bien c'est au sud. Autrement dit, Abraham, il est en train de couper le pays comme ça, ici environ. Puis il dit, ben, si tu veux aller là, va là, et puis moi j'irai là, et vice-versa. Et qu'est-ce que Lot répond? C'est là que c'est intéressant. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Il vit que c'était comme un jardin de l'Éternel. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain. C'est comme si Abraham lui dit, tu veux bleu ou tu veux jaune? Vert. Voilà. Voilà la réaction de Lot. Il est presque arrogant. Parce que Lot ne choisit ni le nord ni le sud. Il choisit toute la plaine du Jourdain, du nord au sud. Et en fait, c'est la partie de l'est, c'est l'Orient, c'est la partie de l'est du pays. Donc, en plus de ça, il est effronté. Il choisit pour lui toute la partie verte, effectivement, la partie fertile. Et pour Abraham, son oncle, qui s'est occupé de lui, rien à faire. Il a qu'à aller dans le désert, se débrouiller avec ses troupeaux et puis accomplir sa promesse là d'une descendance. De toute façon, il est déjà vieux, il a toujours pas d'enfant. De toute façon, peu importe, c'est pas mon affaire. Moi, je vais planter mes tentes jusqu'au sud, jusqu'à Sodome. Imaginez un petit peu. Lot, il ne fait ses choix qu'en référence à lui-même, à sa propre personne. Il n'a aucune considération pour Abraham, il n'a aucune considération pour Dieu, pour les voies de Dieu. En fait, il se laisse séduire par ce qu'il voit. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose. Genèse 3, la femme vit que l'arbre, que le fruit de l'arbre était bon à manger, précieux pour ouvrir l'intelligence. Eh bien lui, il lève les yeux et il voit toute la plaine du Jourdain, qui est comme un jardin de l'Éternel. Ça fait encore penser au jardin d'Éden. Il voit tout ça. Il se laisse séduire. Moi et rien que moi. Mes intérêts. Et il va planter ses tentes jusqu'à Sodome. Et il est bien précisé, les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Méchants, leur cœur était méchant. Et pécheurs, leurs actes traduisaient la méchanceté de leur cœur. Et lui, il n'est pas Il n'a pas peur de se compromettre et de se dire « je vais jusque-là » au risque d'être influencé par toutes ces pratiques, par cette mauvaise mentalité. Et il y a encore un autre aspect qui est intéressant. Lot part à l'est. Alors, selon les traductions que vous avez, il y a peut-être marqué à l'est. Si elles sont plus anciennes, il y a marqué « il va à l'Orient ». Mais c'est bien ça, il va à l'est. Et souvenez-vous, Adam et Ève, après avoir péché, ils ont été expulsés du jardin d'Éden, à l'est d'Éden. Quand Caïn a tué Abel, il a été expulsé à l'est, loin de l'Éternel, qu'il est précisé. Et Lot, il choisit d'aller à l'est. Nos compromis, vos petits compromis, les tout petits, dites-vous bien qu'ils ne sont pas là pour vous faire du bien. Ils ne seront jamais loyaux, ils ne vont jamais faire preuve de loyauté envers vous. Nos compromis nous envahissent. Nos compromis finissent toujours par multiplier, par prendre de l'espace, par faire ce conflit intérieur. Et jamais ils nous veulent du bien. Si tu es dans un compromis, que tu es dans un mensonge, dans une relation illicite, que tu regardes des choses qu'il ne faut pas, que tu as des comportements qui ne vont pas, sache que ça ne te fera jamais du bien. Peut-être que sur l'instant, tu crois que ça te fait du bien. Peut-être que tu crois même que c'est un droit. J'ai quand même le droit de... J'ai quand même le droit de me marier, j'ai quand même le droit d'avoir du plaisir, j'ai quand même le droit de faire telle chose. Mais selon quel est ton choix, s'il ne va pas dans les voies de Dieu, ce compromis-là ne te fera jamais du bien. Alors c'est peut-être un peu dur de traiter une personne de compromis, comprenez bien. Mais le principe est à saisir. Abraham a dû se séparer et la séparation n'a pas été facile. Imaginez un petit peu Abraham. Imaginez un peu tout ce qu'il a investi dans la vie de Lot. Et quand il fait preuve de générosité, quand il renonce à ses droits, qu'est-ce qu'il essuie en retour? Presque une trahison, des blessures, la déception. Il est dépossédé de ses biens. Imaginez un peu son état de cœur. Mais qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il se révolte? Là, on peut encore se poser la question, mais moi, qu'est-ce que j'aurais fait? Comment est-ce que j'aurais réagi? Qu'est-ce que j'aurais fait? C'est pas juste. Je t'ai dit le nord ou le sud. C'est pas assez grand pour toi. Et puis moi, alors, qu'est-ce que je vais devenir? Tu me prends toute l'herbe verte. Tu me prends toute l'irrigation. Mais non, il n'y a pas un mot. Il n'y a pas un mot qui parle de ça. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine. Voilà ce qu'on sait. Abraham ne réagit pas. Il laisse faire. Il renonce à ses droits. C'est pas facile. Mais est-ce que ça valait vraiment la peine? Eh bien, on peut lire la fin du chapitre. Depuis le verset 14. L'Éternel dit à Abraham... Après que Lot se fût séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chênes de Mamré, qui sont près d'Hébron, et il bâtit là un autel à l'Éternel. Abraham a dû d'abord faire ce pas de foi de se séparer de Lot et de renoncer à ses droits. Et seulement une fois que ça a été fait, Dieu intervient. Dieu ne lui a pas dit, mais t'inquiète pas, dis-lui prendre le nord ou le sud, il va aller à l'est, mais t'inquiète pas, je m'occuperai de toi. Non, non. Non, non. C'est comme si la foi d'Abraham, elle a été éprouvée encore une fois. Il a dû être émondé encore une fois. Et une fois qu'il est séparé de son compromis, une fois qu'il marche vraiment dans les voies de Dieu, qu'il est dans l'obéissance, qu'il est dans l'esprit du royaume de Dieu, qu'il est conforme à la parole de Dieu, Dieu intervient et lui dit, tu vois ton territoire, là tu peux le parcourir, du nord au sud, de gauche à droite, d'est en ouest, peu importe où l'autre est allé s'établir, ce pays, il est à toi, je te l'ai donné, et sera ta descendance. Ça veut dire que je te rappelle encore une fois la promesse que je t'ai faite, que tu auras une descendance, et que ta descendance, elle sera tellement nombreuse qu'on ne pourra même pas la compter. Et Abraham, il reste confiant en Dieu. Il va dans un endroit, au chêne de Mamré, où là apparemment la terre est assez fertile pour y mettre ses troupeaux. Et qu'est-ce qu'il fait dès qu'il va dans un nouvel endroit? Il dresse un autel à l'Éternel. Il invoque le Dieu puissant. Il établit la relation avec Dieu. Il marque son territoire spirituellement. Et de là, il pourra continuer ses marches. Jusqu'à ce qu'un jour, la promesse d'un fils, d'une descendance et du pays s'accomplisse. Quand on est dans le compromis, il peut y avoir des conflits d'intérêts. Les choses de Dieu en rivalité avec les choses du diable. Les promesses de Dieu sont en conflit avec les intérêts du diable dans notre vie. Et l'accomplissement des promesses de Dieu bute contre les désirs, les priorités, les choix qui sont issus du compromis. Alors la clé, c'est de ne pas chercher mes propres intérêts, mais ceux de Dieu. Et chercher les intérêts de Dieu, ça peut passer par chercher les intérêts des autres. Plutôt que moi, 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 Seigneur, utilise-moi pour être un instrument de bénédiction. Dans le psaume 37,16, il est dit « Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants. » Et dans Proverbe 28,6, mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité que celui qui a des voies tortueuses et qui est riche. Voilà une exhortation pour nous aujourd'hui. Et j'aimerais terminer cette prédication en vous lisant le psaume 112, qui va vraiment dans cette mentalité de savoir renoncer, d'être généreux, de faire des largesses, dans la confiance que Dieu nous donne en retour. Psaume 112. Louez l'Éternel, heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Il a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice subsiste à jamais. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête, qui règle ses actions d'après la justice, car il ne chancelle jamais. La mémoire du juste dure toujours. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Son cœur est affermi, il n'a point de crainte, jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires. Il fait des largesses, il donne aux indigents, sa justice subsiste à jamais, sa tête s'élève avec gloire. Le méchant le voit et s'irrite, il grince des dents et se consume. Les désirs des méchants périssent. Seigneur, merci pour ces encouragements que tu nous donnes de renoncer à nos compromis, de renoncer à nos droits, de renoncer à nos propres intérêts. Seigneur, c'est pas facile. C'est pas non plus toujours facile de discerner en quoi ça consiste concrètement dans notre réalité, dans notre vie de tous les jours. Mais je te demande pour chacun d'entre nous si, s'il y a quelque chose qui fait obstacle, s'il y a un petit compromis qui a multiplié ses troupeaux dans notre être intérieur, s'il y a un conflit entre le monde des ténèbres et ton admirable lumière, je te demande pour chacun de nous le révéler par ton Saint-Esprit. Montre-nous à chacun ce que nous devons abandonner, ce à quoi nous devons renoncer. Donne-nous, Seigneur, cet esprit de révélation qui nous fasse connaître ta volonté pour notre vie. Et je te demande de nous donner ta force pour aller de l'avant en marchant dans la vérité, dans la puissance de ta parole, dans l'obéissance de ta parole et de ta volonté. Pour te rendre toute la gloire, parce qu'à toi seul revient toute la gloire. Amen. Amen.